Voilà, on va lire ensemble deux passages. Tout d'abord, dans l'épître de Paul aux Romains, vous les avez qui s'affichent et vous avez déjà d'emblée le titre du message de ce matin. Comme ça, dans la lecture, vous pourrez déjà penser à ce titre. Donc, Romains chapitre 13, à partir du verset 11. Cela importe d'autant plus que vous savez en quel temps nous sommes. C'est l'heure de vous réveiller enfin du sommeil. Car maintenant, le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. La nuit est avancée, le jour approche. Dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres et revêtons les armes de la lumière. Nous allons maintenant dans l'épître de Paul aux Éphésiens, Éphésiens chapitre 5, verset 8. Autrefois, vous étiez ténèbres, et maintenant, vous êtes lumière dans le Seigneur. Marchez comme des enfants de lumière. Car le fruit de la lumière consiste en toutes sortes de bonté, de justice et de vérité. Examinez ce qui est agréable au Seigneur et ne prenez point part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt condamnez-les. Il est honteux de dire ce qu'ils font en secret, mais tout ce qui est condamné est manifesté par la lumière. Car tout ce qui est manifesté est lumière. C'est pour cela qu'il est dit « Réveille-toi, toi qui dors. Relève-toi d'entre les morts, et Christ t'éclairera. » Prenez donc garde de vous conduire avec circonspection, non comme des insensés, mais comme des sages. Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. Amen. On va s'arrêter particulièrement sur le verset 14, mais il était important de lire ce qu'il y a avant et ce qu'il y a après. Mais je vais quand même relire ce verset 14. Réveille-toi, toi qui dors, relève-toi d'entre les morts, et Christ t'éclairera. Il est question de se réveiller, et d'ailleurs, dans le premier passage que nous avons lu de l'épître de Paul aux Romains, il était question aussi de se réveiller enfin du sommeil. C'est l'heure enfin de se réveiller. C'est vrai que quand on dort, on n'a plus la notion du temps. Et si on ne met pas son réveil, on peut passer à côté de l'heure où il fallait se réveiller. Réveille-toi, toi qui dors, relève-toi d'entre les morts et Christ t'éclairera. Il est question de Jésus qui nous éclaire, de sa lumière. N'a-t-il pas dit qu'il est la lumière du monde ? Cette lumière qui est venue dans le monde et qui éclaire tout homme venant dans le monde. Mais le problème, nous le savons quand nous lisons le chapitre 1er de Jean, c'est que si cette lumière est venue dans le monde ne l'a point connue. Rien n'a été fait sans elle, mais elle a habité parmi nous pleine de grâce et de vérité. Mais certains ne l'ont pas reçu, mais à tous ceux qui ont reçu, à tous ceux qui ont cru en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Réveille-toi. Ici, l'apôtre Paul, comme que ce soit d'ailleurs dans les Romains comme dans Éphésiens, il s'adresse à des chrétiens, nous y reviendrons. Donc à des personnes qui sont déjà passées de cette mort spirituelle à cette vie avec Dieu éclairée par le Seigneur lui-même. Ce n'est pas si évident que cela que de se réveiller, n'est-ce pas ? Surtout quand on est bien fatigué. Je ne sais pas si vous avez des ados et si vous êtes déjà arrivé de réveiller des ados. Pas toujours facile de réveiller des ados. Alors on peut réveiller un ado comme ça, avec un bon klaxon. C'est efficace, C'est très efficace. Bon, il va rouspéter quand même, hein. Mais c'est efficace si vous voulez vraiment le réveiller. C'est un peu brutal. Ça, c'est pour les ados. Pour les adultes, c'est ça. C'est un seau d'eau froide sur la figure. C'est radical aussi, ça fonctionne. Mais vous avouerez quand même que c'est brutal aussi. Surtout que des fois, eh bien, ils auraient bien aimé faire un peu la grâce matinée, comme une fois, eh bien, aussi, une de mes filles, eh bien, je m'étonnais de ce qu'elle ne se levait pas. Normalement, elle commence à 8 heures ses cours. Elle était à Dot à ce moment-là, elle était au collège. Mais j'avais oublié que la veille, elle m'avait dit qu'elle avait un prof d'absent et qu'elle commençait à 10 heures. Mais moi, je voyais l'heure arriver. Je dis, mais elle ne se lève pas, donc je l'ai levée. J'ai dit, c'est l'heure. Elle a un peu, hein, rouspété parce que j'avais oublié qu'il y avait un prof d'absent. Alors, il ne faut pas réveiller un ado quand il ne faut pas, hein. Sinon, vous pouvez employer une méthode douce, préparer un bon repas avec des croissants chauds, l'odeur du café, tout ça, ça c'est agréable, ça va réveiller, vous ouvrez les portes de la cuisine, ça va aller dans toute la maison. Ça, c'est la méthode douce. Une méthode intermédiaire, c'est la lumière. D'ouvrir les rideaux, c'est ni brutal, ni très doux, mais bon. Et c'est reconnu aussi que la lumière, eh bien le corps détecte la lumière et naturellement le corps se réveille. Et bien sûr, nous sommes appelés à nous réveiller parce que la lumière, elle est là. C'est l'heure enfin de nous réveiller du sommeil. La lumière, elle est là. Christ brille dans toute sa splendeur. Il est celui qui nous éclaire et nous voulons être réveillés. Avant de parler de notre réveil, j'aimerais vous parler du réveil de Dieu. Certains vont me dire, à juste titre, mais Dieu ne dort pas, effectivement. Pourquoi parler du réveil de Dieu si Dieu ne dort pas? Dans Ésaïe chapitre 51, il y a cette prière, on va dire, cette supplication, Ésaïe 51, verset 9. Réveille-toi, réveille-toi, revêt-toi de ta force, bras de l'Éternel. Réveille-toi comme au jour d'autrefois, dans les anciens âges. N'est-ce pas toi qui abattis l'Égypte, qui transperça le monstre? Ici, le prophète, s'adressant à Dieu, lui dit, mais réveille-toi, réveille-toi, revêt-toi de ta force, bras de l'Éternel, réveille-toi comme au jour de l'Éternel. Le réveil de Dieu. Non pas que Dieu dort, puisque ailleurs il est écrit dans le psaume 121, eh bien qu'il ne sommeille ni ne dort. Il ne sommeille ni ne dort. Et c'est vrai que celui qui veille sur nous ne sommeille pas, il ne dort pas, il n'est pas comme nous, eh bien, assujettis à cela. On voit bien sûr Jésus dans les évangiles physiquement qui a eu besoin de se reposer, de dormir, et les disciples l'ont réveillé, mais nous savons néanmoins que ça c'était physiquement, mais que le Seigneur ne sommeille ni ne dort. Il est celui qui veille sur son peuple, il est celui qui veille sur son Église, et bien plus largement que cela, il est celui aussi qui veille sur ce monde. Et que rien n'arrive sans que Dieu l'ait permis. Alors, pourquoi est-il dit « réveille-toi » C'est plus, il y a, considérant des moments où Dieu est comme silencieux, où Dieu, semble-t-il, je dis bien semble-t-il, reste comme à l'écart et il laisse faire certaines choses. Et là, devant le silence de Dieu, devant l'inaction, entre guillemets, de Dieu, on a l'impression, peut-être comme le prophète, que eh bien, Dieu dort. Et là, on va dire, mais réveille-toi, réveille-toi. Dieu est lumière. Dieu est lumière. Nous l'avons déjà dit. Et sa lumière brille toujours. Nous sommes parfois si endormis que nous ne voyons plus la lumière de Dieu briller. Et il nous faut quelque chose de plus énergique, j'allais dire de peut-être plus brutal, pour pouvoir nous réveiller et voir alors à ce moment-là la lumière de Dieu. Mais il est une chose certaine, c'est que Dieu ne dort pas. Il est celui qui en tout temps fait briller sa lumière. Et s'il le semble que Dieu reste silencieux, que Dieu n'agit pas, nous le savons que tôt ou tard, de toute manière, Dieu parlera et Dieu agira. Il nous faut, dans la foi, attendre le secours de Dieu et supplier le Seigneur d'intervenir. Maintenant, après avoir parlé du réveil de Dieu, j'aimerais parler de notre réveil à nous. Et quand nous parlons de réveil de l'être humain, il y a bien sûr deux directions de ceux qui ne connaissent pas encore Dieu, qu'on pourrait appeler les inconvertis, c'est-à-dire ceux qui ne sont pas encore fait cette démarche dans leur cœur de la conversion à Dieu. Et puis, il y a le réveil des chrétiens. Alors, parlant des réveils des convertis, le plus grand réveil spirituel mentionné dans la Bible, c'est bien celui de Ninive. Ninive, cette grande ville. Il a fallu que Jonas, le prophète, arrive. Il a été un signe pour cette ville et pour cette génération-là. Et au message de Jonas, pourtant c'était un message assez court, mais aussi très tranchant, eh bien, au message de Jonas, eh bien, cette ville va être saisie par ce message et va se tourner vers le Dieu vivant et vrai. Cette ville où il y avait de la corruption, cette ville où il y avait de l'immoralité, cette ville où il y avait des choses abominables, va s'ouvrir à Dieu. Un réveil va s'opérer et du roi jusqu'au plus pauvre, toute la ville, eh bien, va se tourner vers Dieu. Quel réveil extraordinaire! Et ce n'était pas une petite ville, c'était une grande ville de l'époque. Ninive était une très grande ville à l'époque. Mais j'aimerais m'arrêter particulièrement ce matin sur le réveil des chrétiens. Puisque dans les deux textes d'introduction, il est question du réveil des chrétiens, puisque Paul s'adresse à des chrétiens. Se peut-il qu'un chrétien dorme? Se peut-il qu'il ne s'aperçoit plus à un moment donné dans quel temps nous sommes, qu'il n'arrive plus à discerner le temps dans lequel nous sommes? Se peut-il que le chrétien s'endorme à tel point que, eh bien, des priorités ont changé dans sa vie, où Dieu n'est plus la priorité dans sa vie? Se peut-il aussi que le chrétien dorme à tel point aussi qu'il ait mis de côté cette nourriture qu'est la parole de Dieu? L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sortira de la bouche de Dieu. En effet, il est important pour nous de nous réveiller et de nous lever, de nous relever. Parce que vous savez le risque, quand on se réveille et qu'on reste couché, ces draps sont bien douillés, il fait bien chaud dans le lit. Le risque, si on ne se lève pas, on a beau se réveiller, c'est qu'on se rendorme. On se rendort, il fait si chaud dans ce lit bien douillé. Puissions-nous nous réveiller et nous lever. Réveille-toi et Christ t'éclairera. Christ t'éclairera. Alors, il est parlé de la lumière du Seigneur. Il est celui qui nous éclaire. Ça ne veut pas dire que le Seigneur était éteint et puis à un moment donné, au moment où on se réveille, il nous éclaire. Non, sa lumière, elle est éternelle. Dieu est éternel. Mais à ce moment-là, comme dans la diapositive de tout à l'heure, il faisait déjà jour, mais eh bien, on était empêchés de voir la lumière du jour. Mais la lumière, à ce moment-là, lorsqu'on ouvre les yeux, nous pouvons en bénéficier de cette lumière. Christ nous éclaire, il nous éclaire sur lui, sur ce qu'il est. Il nous rappelle, si cela est nécessaire, qu'il nous aime. Il nous rappelle ce qu'il a fait à la croix. Il nous rappelle sa résurrection. Il nous rappelle la place glorieuse que nous avons avec lui dans la gloire, et ce, pour l'éternité. Et face à tout cela, face à ce qu'il est, eh bien, il y a des choses qui pâlissent ici-bas. Rien ne saurait comparer à la gloire à venir. Nos épreuves, rien ne saurait comparer nos tribulations, nos difficultés, tout cela, quand on sait à ce à quoi le Seigneur nous appelle. La mort n'a plus de pouvoir sur nous. Elle ne nous terrorise plus, elle ne nous met plus dans la crainte, parce que nous savons, eh bien, où nous allons après. Le Seigneur est donc celui qui nous éclaire sur sa personne, il nous éclaire sur nous-mêmes aussi. Où nous en sommes dans la foi? Alors cette lumière, bien sûr, se réveille, il est parfois douloureux. Il est parfois douloureux le réveil. Parce que la lumière, si vitale, si indispensable à la vie, on le voit même pour les plantes, sans lumière, il n'y a pas de plantes. Il n'y a pas d'herbe, il n'y a pas de fleurs, il n'y a pas de vie. Et cette lumière-là, si indispensable aussi, Jésus qui est la lumière du monde, si indispensable pour notre vie, va produire en nous une crise qu'on peut appeler eh bien, la conviction de péché. C'est qu'alors il nous montre dans quel état nous sommes. Et cette conviction de péché, elle ne concerne pas uniquement ceux qui ne connaissent pas le Seigneur, elle ne concerne pas les inconvertis uniquement, elle nous concerne, nous aussi. Et nous voulons accepter cette lumière de Dieu dans nos cœurs, ce qu'il montre dans notre vie. L'apôtre Paul dira bien que tout ce qui est condamné est manifesté par la lumière. La lumière va manifester certaines choses. C'est une lumière qui va, il est vrai, à un moment donné, condamner, parce qu'elle met en relief certaines choses. Mais cette lumière-là, elle nous donne aussi la solution, parce qu'elle nous éclaire sur l'œuvre de la croix que Jésus a accomplie, parce que si elle met en évidence certaines choses dans notre vie, elle nous donne la solution pour pouvoir être pardonné, pour pouvoir être délivré de nos passions, être délivré de nos angoisses, être délivré de nos stress, être délivré de certaines choses qui sont là dans nos cœurs. Jésus est celui qui vraiment fait lumière dans notre cœur et il fait lumière aussi sur la solution. Cette lumière, elle est là, nous rappelant qui est Dieu et cela, eh bien, pour nous, nous saisit dans notre cœur. Nous sommes pleinement reconnaissants. Et il y a une certaine crainte de Dieu, pas une crainte, j'allais dire, pas une phobie, pas une peur, mais un profond respect de Dieu s'établit dans notre cœur. Parce que nous reconnaissons alors qui il est, qui il est. Le Seigneur est celui qui nous éclaire, et cela provoque en nous eh bien, beaucoup de réactions et de changements. Cette lumière aussi provoque une communion avec lui, une nouvelle communion avec lui. J'aimerais avec vous lire dans la première épître de Jean, chapitre 1er, verset 5, nous lisions aussi ce passage mardi soir lors de notre étude et nous avions, lors de cette étude, parlé du sang de Jésus. J'aimerais relire ce passage. Première épître de Jean, chapitre 1er, verset 5. La nouvelle que nous avons apprise de lui et que nous vous annonçons, c'est que Dieu est lumière et qu'il n'y a point en lui de ténèbres. Si nous disons que nous sommes en communion avec lui et que nous marchions dans les ténèbres, nous mentons et nous ne pratiquons pas la vérité. Mais si nous marchons dans la lumière comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion. Et le sang de Jésus nous purifie de tout péché. Amen. On pourrait lire la suite, c'est fort intéressant, mais on va se limiter à ces trois versets-là, où il nous est rappelé que Dieu est lumière. Très bien. Dieu est lumière. Et si nous sommes en communion avec lui, si c'est quelque chose que nous disons, mais que la vérité n'est point en nous, que nous sommes faux, que nous sommes dans la fausseté, que nous sommes dans le mensonge, Eh bien, il nous a dit que eh bien, nous mentons, nous ne sommes pas en communion avec lui à ce moment-là. Mais si nous marchons dans la lumière, si vraiment nous sommes éclairés par cette lumière du Seigneur et que nous marchons dans cette lumière, alors nous sommes mutuellement en communion avec lui. Vous voyez, cette lumière, elle provoque une communion avec le Seigneur. Celui qui est attaché au Seigneur, il fait un avec le Seigneur. Il fait un avec le Seigneur. Le Seigneur est celui qui nous éclaire et cette lumière va produire en nous, dans notre cœur, dans notre conscience, dans nos pensées, dans notre esprit, un allant, j'allais dire, pour nous diriger toujours plus près de lui. Vous savez, c'est comme les insectes. Hein. Les insectes, ils sont attirés par la lumière. Nous sommes, nous aussi, attirés par notre Seigneur Jésus-Christ. Que son nom soit glorifié. Le Seigneur nous éclaire sur bien des choses, sur l'heure qu'il est. Mais j'aimerais, avant d'aller plus loin, parler des raisons de l'endormissement. Elles sont multiples et variées. Je vais en citer quelques-unes rapidement, je ne vais pas m'y attarder. On pourrait parler de Delila qui a endormi Samson sur ses genoux. On voit ça dans le livre des Juges au chapitre 16. Elle l'a endormi sur ses genoux. Pauvre Samson. Une fois que Samson a ouvert son cœur à cette femme qui a su le séduire, une fois qu'elle lui a ouvert son cœur, elle l'a su, et qu'il avait ouvert son cœur, et elle l'a endormi sur ses genoux. Ça, c'est l'endormissement de la séduction que nous voyons aujourd'hui un peu partout. Je parlais de Jonas tout à l'heure. Il nous est dit aussi dans le livre de Jonas, au chapitre 1er, que Jonas s'est endormi dans la cale du bateau. Il avait pris un bateau pour fuir. Il avait pris un bateau pour s'éloigner. Il devait aller à Ninive, Dieu l'appelait à aller à Ninive, mais Jonas ne voulait pas, il était dans la désobéissance, dans le refus de la volonté de Dieu. Et il est parti à Tarsus, c'est-à-dire l'Espagne, le sens opposé. Là, il s'est endormi. La fuite de la volonté de Dieu provoque cet endormissement. Bien sûr, il a été réveillé. Il a fini dans le ventre du poisson, on connaît l'histoire, et le poisson l'a recraché là où il devait atterrir. Eutychus, vous connaissez Eutychus ? Lui aussi s'est endormi. Hein ? Chapitre 20, des Actes des Apôtres, sur le bord de la fenêtre. Quelle drôle d'idée ! Il faut dire aussi qu'ils n'étaient pas dans une salle comme nous, on est ce matin, tranquillement sur notre chaise. Hein. Voilà, il y avait du monde déjà, ils étaient debout, et puis voilà, peut-être qu'il y avait quelques personnes assises par terre. Mais voilà, donc lui, il était assis au bord de la fenêtre, mais il n'était pas très intéressé par le discours de Paul. Hein. En plus, Paul a prolongé son discours jusque tard dans la nuit, comme nous allons le faire aujourd'hui. Non, rassurez-vous. Eutychus, par ce manque d'intérêt, il a fini par s'endormir. Peut-être qu'on lui mettait des coups de coude, mais il a quand même fini par s'endormir. Et si d'ailleurs vous voyez votre voisin s'endormir, vous pouvez lui mettre un coup de coude. Mais j'aimerais m'arrêter un peu plus sur Élie. Élie, quel prophète extraordinaire, Élie. Un homme de foi, un homme de référence. Pour les prophètes, c'était un homme de référence qui a formé un autre prophète, Élisée, qui a fait aussi d'autres prophètes, ces écoles des prophètes qu'on appelait les fils de prophètes, tout ça. Eh bien, voilà, Élie était un témoin en son temps, un témoin de la volonté de Dieu. Et puis, on voit à un moment donné que Élie va s'endormir. Élie va s'endormir. Il vient de se passer quelque chose d'extraordinaire. Élie, à lui tout seul, a tenu tête à 400 faux prophètes, à lui tout seul. Et suite à la prière d'Élie, le feu est descendu sur son holocauste. Miracle. Merveilleux. Il avait mis beaucoup d'eau en plus. Hein. Les faux prophètes, avant ça, avaient gesticulé. Rien ne s'était passé. Ils s'étaient même fait des incisions. voilà, mais rien ne se passait. Élie, lui, prie et le feu descend. Et après avoir tenu tête à ces 400 faux prophètes, il va fuir devant une femme. Il faut dire que cette femme était méchante, une femme sanguinaire, une femme qui avait peur de rien, une femme corrompue, appelée dans la Bible Jézabel. Et voilà, on voit dans 1 Roi chapitre 19 que Élie, vraiment, passe par un moment difficile intérieurement. Il est dans la dépression, il est dans le découragement. Il pense qu'il est resté tout seul en Israël. Il pense que vraiment tout le peuple est corrompu, mais ce n'était pas la réalité. Bien sûr que Dieu s'était réservé un peuple, 7000 hommes, qui n'avaient point fléchi les genoux devant les Baals. Mais Élie est là dans la dépression, il pense être seul. Et là, eh bien, il s'endort. Ouais, il a vraiment les signes de la dépression. Alors Dieu va le réveiller. Et là, lorsque Élie se réveille, il voit sur des pierres chauffées un bon gâteau. Vous savez, tout à l'heure, j'ai fait cette image-là pour réveiller quelqu'un, l'odeur le matin des croissants chauds. Hein. Et c'est ce qui s'est passé pour Élie quand il se réveille. Il y a ce bon gâteau et puis une cruche d'eau qui est là. Alors Élie, il mange. Et ces pierres sont quand même un symbole, ces pierres chauffées sont un symbole de ce qui se passe dans la communion fraternelle. Ne sommes-nous pas tous des pierres vivantes ? Et dans la communion fraternelle, il y a un bon gâteau qui fait du bien. Alléluia. Merci Seigneur. Et une cruche d'eau qui rafraîchit. Pensez-vous que Élie va rester éveillé, non ? Sa dépression est tellement dans son cœur, son découragement est tellement là qu'il va se recoucher. Il va se recoucher, il va se rendormir. Et parfois, c'est tellement en nous que Dieu nous réveille, mais voilà, on a du mal à s'en sortir. Et on replonge. Alors, une deuxième fois, le Seigneur va le réveiller. Et Élie va remanger. Il nous a dit qu'avec la force de cette nourriture, il va marcher pendant 40 jours. Incroyable. Là, il reste réveillé. Il reste éveillé, il va à la montagne d'Horeb et là, il va faire une rencontre avec le Seigneur. Et suite à cette rencontre avec le Seigneur va lui donner certaines indications, mais il va pouvoir continuer son ministère jusqu'au jour où Dieu va le prendre et que Élisée va prendre la suite. Et nous pouvons bénir le Seigneur vraiment pour sa patience à notre égard. Nous pouvons vraiment bénir le Seigneur parce que parfois il nous secoue un peu pour nous réveiller. Nous pouvons bénir le Seigneur parce que même si on se rendort à nouveau, il est toujours celui qui est là pour nous réveiller parce qu'il sait, lui, en quel temps nous sommes. Et c'est l'heure, enfin, de nous réveiller. On pourrait parler aussi, excusez-moi, de Jacob, mais le temps passe. Jacob aussi, qui avait perdu son fils Joseph. Il nous est dit dans Genèse 45 que lorsque ses autres fils sont revenus d'Égypte et lui ont monté tous les présents que lui avait envoyé Joseph, son cœur est resté froid, il nous est dit. Son cœur est resté froid. Ça faisait des années que Joseph avait disparu. Il pensait que Joseph était décédé. Et il s'était fait une raison. Il était résigné. Son cœur est resté froid. Et ses fils vont insister. Alors là, il va quand même aller un peu plus loin. Il va voir. Il nous dit que son esprit s'est ranimé, s'est réveillé. Son esprit s'est ranimé. Et lorsque nous voyons les œuvres de Dieu se manifester, notre esprit se ranime. Alléluia. Notre esprit se réveille. Que Dieu soit béni. C'est l'heure. Un cri dans la nuit. C'est l'heure enfin de nous réveiller, dit l'apôtre Paul. Comment ne pas parler de cette parabole des vierges sages et des vierges folles qu'on trouve dans Matthieu chapitre 25. Toutes se sont endormies et nous savons ce que représentent ces vierges par rapport à l'Église de Jésus-Christ. Toutes se sont endormies, mais il y a quelque chose qui va se passer qui va les réveiller dans la nuit. C'est un cri dans la nuit. Il nous est dit, eh bien, on cria dans la nuit. Qui a crié ? Tiens, tout le monde ne dormait pas. Les vierges, elles, dormaient. Mais si quelqu'un a crié dans la nuit, ça veut dire qu'il y avait encore des personnes qui étaient réveillées. Et je me dis, personnellement, oui, vaut mieux être les vierges sages qui avaient pris de l'huile, mais pourquoi ne pas être aussi ce cri dans la nuit ? Pourquoi ne serions-nous pas de ceux qui restent éveillés pour crier dans la nuit, afin que, eh bien, ceux qui se sont endormis puissent, eh bien, se réveiller ? Vous savez, la parole prophétique est considérée dans la parole de Dieu comme le son d'une trompette. Alors, pas uniquement le son d'une trompette, mais en partie. Dans Ésaïe 58, il nous est dit, par exemple, « Élève ta voix comme une trompette ». Ça réveille la trompette, hein ? Ça réveille. La parole prophétique. Et nous voyons dans le livre du prophète Agée, au chapitre 1er, on ne va pas lire tout le chapitre 1er, mais à la prédication prophétique du prophète Agée, ainsi que celui de Zacharie, le peuple s'est réveillé. Zorobabel s'est réveillé, mais pas simplement Zorobabel, les chefs, mais aussi le peuple s'est réveillé et ils se sont remis à construire le temple, ce temple qu'ils avaient commencé à reconstruire, mais à un moment donné, ils se sont stoppés, les années ont passé, il y a eu de la négligence a entraîné de l'endormissement et il a fallu, à un moment donné, que le prophète âgé élève la voix comme une trompette. Nous voulons entendre ce que le Seigneur a à nous dire. Se peut-il que nous soyons endormis ? Si pour nous, nous avons les symptômes de l'endormissement, alors entendons la parole de Dieu qui veut nous réveiller et nous rappeler nos priorités. Dans le livre du Cantique des Cantiques, il est écrit ceci : J'étais endormi, mais mon cœur veillait. Ce chapitre 5 du Cantique des Cantiques, alors ce n'est pas sur les diapositives parce que ça, c'est en priant ce matin de bonne heure que j'ai pensé à ça, mais j'avais déjà fait le diaporama, mais j'étais endormi, mais mon cœur veillait. Dans ce chapitre 5 du Cantique des Cantiques, il est question de la fiancée qui s'est endormie. Nous savons quelle est l'allégorie qu'il y a dans ce livre du Cantique des Cantiques de cette femme vis-à-vis de cet homme, l'allégorie qu'il y a entre l'Église et Jésus-Christ. Et à un moment donné, donc, cette femme s'est endormie, elle s'est mise dans son lit, elle s'est mise en robe de nuit, elle est bien au chaud dans son lit. Le problème, c'est que l'époux n'est pas dans la chambre. Et à un moment donné, il est dehors, il frappe à la porte. Il frappe à la porte. Ça nous fait quand même penser à ce que Jésus dit à l'église de Laodicée. Quand il frappe à la porte, si quelqu'un entend ma voix. Frappe à la porte, mais si on est endormi, peut-être que sur le moment, eh bien ça ne va pas nous réveiller, mais avec l'insistance des coups sur la porte, cela va finir par nous réveiller. Et à un moment donné, elle nous a dit qu'elle s'est réveillée. J'étais endormie, mais mon cœur veillait. Il y avait quand même un lumignon qui était là. Il y avait quand même de la vigilance qui était là. Et ça, c'est vraiment typique de l'Église, qui même si elle est endormie, c'est vraiment le caractère du chrétien, même si parfois nous nous endormissons, eh bien nous savons aussi qu'il y a quand même une veille qui est là. Et à l'écoute de la parole de Dieu. Lorsque l'on entend le Seigneur frapper à la porte de notre cœur, alors on ouvre les yeux, on se réveille. Seulement, elle est paresseuse, la fiancée. Puisqu'elle va dire, « J'ai ôté ma tunique, comment la remettrai-je » Voilà. Elle est réveillée, elle s'est réveillée. Mais il faut qu'elle se lève. Il faut qu'elle s'habille. Ce n'est pas si évident. Mais à un moment donné, quand même, elle va se décider. Elle va se décider. Elle va se lever. Elle va se lever. Je pense qu'il est important pour nous, même si, eh bien, on a l'impression que tout est bien, mais de se lever. Réveille-toi, toi qui dors, relève-toi d'entre les morts. Et Christ t'éclairera. Alléluia. Que le Seigneur puisse sonder nos cœurs, que sa lumière, telle une sonde, pénètre au plus profond de notre être, au plus profond de nos pensées, de notre conscience, de notre cœur, de notre âme. Sonde-moi, ô Dieu, et connais mes pensées. Regarde si je suis sur la bonne voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. Sonde-moi, ô Dieu, que ta lumière pénètre mon cœur. Oui, Seigneur, j'accepte ta lumière. On va prier ensemble. Merci, Seigneur, pour ta parole. Merci pour ton esprit. Merci, Seigneur, parce que tu es celui qui nous conduit les uns et les autres. Seigneur, nous savons en quel temps nous sommes, Seigneur, et nous le voyons bien, par rapport à tout ce qui est écrit dans ta parole, Seigneur, et qui nous montre que ton retour approche. Nous voulons vraiment nous focaliser sur l'essentiel, Seigneur. Rester attaché à ta parole, rester attaché à ta personne. Nous voulons fonder notre vie sur toi, Seigneur. Que ton nom soit ainsi béni, Seigneur Jésus. Nous voulons ouvrir les yeux sur ces réalités spirituelles et, Seigneur, marcher à ta lumière afin d'être en communion avec toi. Que ton nom soit ainsi glorifié, Seigneur Jésus. Merci pour ton œuvre, merci pour ta patience. Merci pour ton amour, Seigneur, et ta bienveillance à notre égard. À toi soit donc toute la gloire, Seigneur Jésus. Merci pour toutes choses. Amen.